Bonjour chers amis, j'ai tardé un petit peu, c'était la fête à la fin du camp. À 16 heures, c'était la fin du camp, les parents étaient là, les nombreux enfants étaient là, les moniteurs, ça s'est bien passé jusqu'à 5h15, et puis après, il y avait encore des parents, j'ai dû les quitter pour revoir un peu mes notes, un petit peu trop vite à mon goût. Un peu trop, je dirais, à la va-vite. Mais je referai une conférence dans la région de Virton au mois de mi-septembre, octobre et mi-novembre, jusqu'en mi-décembre, sur tous ces sujets-là et bien d'autres. Il y aura 17 à 19 conférences. Je vois que le temps est urgent. Il faut annoncer la parole de Dieu, il faut annoncer les prophéties de Dieu. Il faut montrer le sérieux de Dieu dans tout ce qu'il a dit. Les gens sont dans une profonde inquiétude, ou en tout cas un questionnement, et ils sont tout à fait perplexes sur l'avenir de notre monde, et de leur propre vie, surtout de leurs enfants et petits-enfants. Donc je vais essayer de répondre pendant 2 mois à toutes sortes de questions que se posent des personnes dans notre région, surtout qu'un local nous sera prêté gratuitement par la personne qui a déjà contracté l'achat de la maison de prière et qui nous offre un bâtiment gratuitement pour 1 € par mois dans Virton. J'espère que là, il y aura des livres, une exposition biblique, un dépôt de livres des maisons d'édition pour en vendre. Il est temps de trouver un petit peu un pied dans la ville de Virton. Et nous, avec l'argent que nous avons, nous verrons ce que nous pourrons faire aussi pour un local, un petit local, peut-être dans des containers, à côté de la maison. Pourquoi pas? Pour l'église. Il est clair que nous avons le projet de la maison de prière, de vie. La vie a rayonné durant ces jours. Bon, puisqu'il y a à peu près 45 personnes, hein, dans la propriété pendant une semaine, la vie a rayonné, elle rayonnera toujours si nous gardons fidèlement Christ dans nos vies et si nous aimons vraiment le servir. Nous sommes une petite assemblée, si petite soit-elle, elle est animée d'une grande foi par ceux qui la composent. Et d'une grande humilité, d'un grand amour. Ce qui reste de cette église est fidèle à l'Évangile. Il y a l'école des enfants qui se terminait avec 15 ou 16 enfants au mois de juin. Il y a un nouvel élève, une jeune fille ukrainienne de 12 ans. Il y a bien sûr d'autres enfants qui arriveront par la grâce de Dieu. Bon, voilà, ça c'est un point. Il y a l'école de réfugiés et d'alphabétisation. Il y en avait 19 avec Noémie. Et donc maintenant, après ces 2 écoles, il y a l'école du Pakistan. Et je vous remercie pour la générosité que vous avez. Vous savez, quand on démarre avec quelques élèves et puis qu'on finit par 135 enfants, on finit, c'est pas fini. On est là actuellement à 135 enfants et que tout est, je dirais, béni et que approuvé des musulmans, du gouvernement, une école évangélique de 135 enfants avec 3 institutrices, 3 sœurs, c'est bien. Je me suis toujours demandé comment c'était possible. Quand j'ai mis les doigts, si on veut, dans l'engrenage de la foi, je n'ai jamais pensé que ça irait si loin. Voilà 135 enfants qui reçoivent un enseignement chrétien et un enseignement convenable et qui ont été inspectés par les autorités et qui ont bien réussi. Maintenant, le pasteur insiste pour un autre village. C'est vrai qu'il y a 3, 4 autres villages qui demandent, mais c'est pénible, enfin. Ça me paraît pénible, en tout cas, peut-être que Dieu en réserve des moyens insoupçonnés, je le pense, hein. Mais actuellement, on doit envoyer 1 200 € par mois. 135 enfants, un repas par mois, par jour, des livres, des bibles, trois institutrices, en plus une veuve qui est couchée par terre sur sa natte, qui a travaillé dans les briques toute sa vie, qui a perdu son mari, qui a des enfants, et un homme qui est tombé dans le four à briques et qui a une femme. Il a 34 ans, 30, il en paraît 74, 74, du service qu'il a eu, Mumir, et ses trois enfants et sa femme. Et voilà l'ensemble. Et il y a la moto de notre cher pasteur Saïd, qui a dû être remplacé la semaine passée, parce qu'il avait un accident très grave. Fort heureusement, il est sorti avec des contusions, des blessures, des croûtes. Dieu l'a gardé. Que ferons-nous jusqu'au retour de Jésus? S'il faut encore aider plus et mieux. Il est clair que j'aimerais bien d'aller jusque là-bas. Mais est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que ma santé le permet? Est-ce que les moyens le permettent? N'en sais rien. C'est peut-être pas nécessaire. Aujourd'hui, je vais d'abord prier, pour remercier pour ce qui s'est passé pendant une semaine ici, de manière admirable, et d'autre part, tout ce qui se va encore se faire, et ce qui se fait dans vos cœurs. Seigneur, Père chéri, Père du ciel et de la terre, j'admire, je contemple la grâce que tu donnes à beaucoup de personnes qui écoutent les messages. J'admire, Seigneur, ce que tu fais dans les cœurs de ces personnes. Et dans mon cœur, car ta parole est une source inépuisable de vérité, de richesse pour nous édifier, pour nous construire, nous donner la vie. Ta parole est la vie. Seigneur, je t'en remercie infiniment. D'autre part, Seigneur, ta parole distribuée dans le camp est la vie aussi, et ce fut distribué de manière par les moniteurs, 4 hommes et 4 femmes, ce fut admirablement distribué. Je t'en remercie, Seigneur. Parmi les femmes, il y avait nos trois filles, Bénédicte, Véronique, Noémie et Camille, Miranda, institutrice portugaise à Paris. Parmi les hommes, il y avait Vincent, Alexander, Segnonef, et il y avait Pierre William et Malkas Gergani. Pierre-William Leroux, une belle équipe formant en bloc, et puis un jeune homme qui au départ, je me demandais comme ça, qui est venu, qui s'ajoute, ça fait le 5e, et qui a bien travaillé, qui est admirable, c'est le fils Choliagé, l'aîné, et qui a de grandes qualités de leader, de grandes qualités d'humour, de joie, et donc, ce fils est une promesse, je pense, pour les services de Dieu plus tard. Puisse-t-il être éclairé par le Saint-Esprit pour servir Dieu. Tout comme Malkas, tout comme Pierre-William, Vincent et Alexander. Je suis fatigué avec le soleil, on a été dehors, les enfants dansaient, et je ne me rappelle plus le prénom du jeune homme Choliagé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ça me reviendra peut-être dans 3 minutes. Je voudrais remercier le Seigneur aussi pour votre amour, pour tout ce que vous avez toujours fait dans vos prières, tout ce que vous avez présenté à Dieu pour nous soutenir. Je vous remercie pour votre foi, votre amour et votre prière. Et croyez bien que c'est précieux, c'est précieux. Dans le ministère de nos filles, des membres de l'Église et dans le mien. J'avais repéré un jeune homme qui avait besoin d'être aidé. Il y a ça 4 ans, il est aidé, il a progressé, s'en est sorti de sa difficulté morale, psychologique, spirituelle. Et il sert déjà, il est dans son Église, il sert dans une colonie de vacances. Et bien maintenant, il y en a un autre qui est arrivé ici, et qui avait à peu près les mêmes problèmes, et qui est en train de s'épanouir, de s'ouvrir. Je remercie ceux qui ont toujours aimé notre maison et notre ministère, car il y en a beaucoup qui nous haïssent. Ne vous faites pas d'illusions, Nous pouvons tourner le regard autour de nous, même dans notre village. Et c'est ces choses étranges, c'est autour de notre maison et dans tous les villages qu'il se passe des choses bizarres. Mais prions pour le village de Gomri. Prions pour que l'autorité du Saint-Esprit agisse sur ce village. On dirait que plus on redouble dans le ministère, plus l'ennemi redouble dans les désastres dans le village. Et donc, ne nous laissons pas intimider. Voilà, maintenant je reprends la parole de Dieu là où je l'ai laissée l'autre fois. Vous vous rappelez sans doute que j'ai parlé d'Ézéchiel 38. Dans Ézéchiel 38, chers amis, il faut bien se dire que c'est un texte difficile à lire. Plus tard, je vous parlerai, mais pas tout de suite, parce que je vais vous donner une indigestion des prophéties de Daniel concernant le temps présent. Mais elles sont tip-top. Elles ont tapé juste. C'est Dieu qui a parlé, et c'est en train de se réaliser. Bon, dans Ézéchiel 38, il est clair que le prince de Roche, Roche, ça veut dire chef, prince, c'est une entité, si vous voulez. C'est le prince de Roche, c'est le monde des puissants. Hein? De Méchec, Tubal, puis il y a Gomer, Torgama au verset 6, ce sont des régions de Turquie. Prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'en veux à toi, Gok, prince de Roche, Méchec et de Tubal. Donc, Gok est probablement la Russie et en alliance avec la Turquie. Et c'est fait. Ils ont signé une alliance il y a de ça 15 jours pour attaquer les Kurdes en Syrie et en Irak. Et sans doute qu'ils vont passer à l'attaque sur Israël bientôt. Et donc, si on visite des Syriens, parce que la télévision ne dit pas grand-chose, on visite des Syriens, qu'on va chez eux, moi j'en visite, je sais qu'ils ont déjà attaqué avec des avions de combat des villages kurdes en Irak et en Syrie. C'est pas nouveau sous le soleil, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent se diriger pour faire sauter le bouchon qui va vers l'Afrique. Le bouchon, c'est Israël. Il prend toutes les richesses de l'Afrique, puisqu'ils perdent des richesses dans les guerres avec l'Occident, ils sont épris de puissance. Chine et Russie sont épris de puissance, et c'est l'Afrique qui peut permettre la croissance, le pouvoir. Alors, c'est une guerre qui est dans le sujet du chapitre 38, du chapitre 39, une guerre très importante, ça sent le roussi, ça commence. L'Ukraine à côté, c'est rien. Donc la Russie semble concernée. Ensuite, l'extrémité du septentrion, comme il est mis dans la Bible, là, l'extrémité du septentrion, c'est la région de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, c'est le Caucase. C'est toutes ces régions qui sont sous obédience russe. Et qui ont été longtemps sous l'autorité de la Russie. Et puis, il y a la Turquie elle-même. Donc, et dans le texte que nous avons ici, nous avons, en plus, nous avons au chapitre 5, au verset 5, ceux de Perse, c'est l'Iran, d'Éthiopie, donc l'Éthiopie actuelle, plus le Soudan et l'Érythrée et Somalie, et puis c'est la Libye, la Cyrénaïque. Et donc, ils sont tous en train d'attaquer un pays qui a échappé au massacre, un pays qui est installé sur son territoire. Voilà, je lis le verset 8, « Après bien des jours, tu seras à leur tête, donc la Russie, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirées du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, effectivement, puisque l'Égypte en même temps va attaquer, toutes les peuplades vont attaquer. Ils vont être cernés sous quatre attaques simultanées. Bon, tout ça c'est les hommes. Mais Dieu le permet. Pourquoi? Un, pour que la gloire de Dieu éclate, ils vont tous être brisés, prennent plus de grêlons, des grêlons de 33 à 37 kilos. 2. Pour que Israël voie le signe de Dieu et se convertisse et se repente. Juste un peu après, il y a l'enlèvement d'église. Pour cette année, tous les chrétiens vraiment nés de nouveau sont mis à part, comme Noé était mis à part dans son arche, ils sont mis à part. Ceux qui resteront vont subir des fléaux énormes. Alors, nous savons que Dieu a toujours voulu soumettre ses ennemis. Prenons Hébreux chapitre 10, verset 13. Et vous allez voir que c'est déjà décrété depuis longtemps. Chapitre 10, verset 13. Dieu attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Dieu attend. Il attend, mais un jour il passe à l'action. Et vous trouvez ce même verset dans le psaume 110. Le psaume 110 a été repris plusieurs fois par Paul, Pierre, Jacques et Jean dans les récits des Actes des Apôtres. Donc c'est un thème dominant. Le Seigneur va faire de ses ennemis son marchepied. Donc Ézéchiel 38 et 39, c'est le moment où ils deviennent le marchepied. Il va marcher dessus. Pour s'élever, pour être en gloire, pour être connu par les nations comme Seigneur et Créateur de la Terre, comme Maître de l'Univers, Maître de l'Histoire et aussi Maître et Seigneur d'Israël. Alors, il y a bien sûr beaucoup de passages un petit peu qui paraissent confus dans les chapitres 38 et 39. Et c'est pas facile, vous savez, de commenter ce texte. Pas facile, il y a clairement quelque chose qui est dit au chapitre 39, versets 9 à 20. Chapitre 39, les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux armes, aux flammes, les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec des armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qu'ils ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur éternel. Donc, il y a une destruction des armes, et nous avons la même chose dans Michée, chapitre 4, versets 1 à 4. C'est très important, Michée, c'est 620 à 580 avant Jésus-Christ, Michée, c'est 8 siècles avant. Donc il y a quasiment 200 ans entre les deux. Et on ne peut pas dire qu'ils se sont téléphonés, ils avaient des portables, sauf celui du Saint-Esprit. Donc Michée, si vous voulez, on va prendre Michée, si je le trouve tout de suite, hein, parce que quand on a eu chaud là, c'est pas facile. Vous savez bien comme moi. Et quand ça va finir, on ne le sait pas. Peut-être que vers le 15 août, en général, il pleut parfois. On verra, sinon c'est pour jusqu'au 27 ans ou 25 septembre. Michée 4, versets 1 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, donc sur tous les peuples. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que les peuples y afflueront. Donc lisez Ésaïe 24, versets 5 à 9, vous verrez, c'est la réunion autour de Christ, c'est l'anéantissement de la mort, c'est la victoire de la résurrection, de la vie, puisque Dieu est vie. Donc c'est la victoire de Dieu. Verset 2, Michée, chapitre 4, verset 2, « Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. La loi vivante accomplie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la table de Moïse en pierre avec des 10 lois. La loi vivante, la loi même incarnée, c'est Jésus-Christ. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos, donc des pioches, et de leurs lances des serpents. Une nation ne périra plus, ne tirera plus l'épée contre une autre, l'on n'apprendra plus la guerre, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche éternelle des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Lisez bien ceci, chapitre 4, et mettez-le en parallèle avec chapitre 5. Chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Tout se tient, nous savons dans la parole. « Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, ils auront une puissance assurée. » Donc c'est le Christ et ceux qui sont avec lui. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le règne, le royaume de Christ. C'est lui qui ramènera la paix, etc. Ok ? Faites bien attention, le début de Michée 5 et le début de Michée 4 sont très importants pour mieux comprendre le texte d'Ézéchiel. Je vous invite à prendre des vieilles armes chrétiennes. C'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Et prenez, puisqu'on a plus d'argent que dans le temps, dans l'Antiquité, prenez un cahier, un bic et notez. Puis si vous avez des questions, envoyez-moi à la poste, etc., puisque je ferai des conférences au mois de septembre et que je vais essayer d'établir une jonction Internet avec vous à ce moment-là. Alors, dans ce local de Birton. Alors, il est clair que la finalité de Dieu, c'est l'établissement de Christ à Jérusalem, à Sion. C'est la reconnaissance de l'autorité, de la souveraineté de Dieu. C'est la conversion des peuples. C'est la royauté de Christ en Israël, le descendant de David. Prenons Ézéchiel 39. Versets 22 à 29. C'est un petit peu, je dirais, en désordre tout ça, mais bon, il y a le camp. C'est pas que je suis moniteur au camp, mais le camp, c'est énormément de poubelles à ramasser, d'ordre à mettre dans la propriété, matin et soir. C'est des courses à faire. C'est les jardins à arroser. C'est rendre service quand on le demande. C'est étudier sa Bible, et c'est encore, si possible, répondre à du courrier, internet ou écrit. Tout cela, c'est un peu beaucoup. C'est pour ça que je vous remercie si vous priez pour moi. À 74 ans, même à 20 ans, on en a besoin. Au chapitre 39, verset 22. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ses iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face, je les ai livrés entre les mains de leur ennemi, afin qu'ils périssent par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, je leur ai caché ma face. Ça, c'est une chose. Toutes les nations vont comprendre que Deutéronome 28, lisez Deutéronome 28, les bénédictions quand on respecte l'Alliance, les Juifs qui respectent l'Alliance, et les malédictions quand on désobéit. Lisez, parce que c'est très important pour comprendre tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Mais il y a quelque chose qui est dit, qui est profondément important. Verset 25. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Je serai jaloux de mon Seigneur. Donc, actuellement, sur la terre d'Israël, c'est une partie des Juifs qui sont revenus. C'est 3-4 millions. Mais ils sont 20 millions. Où sont les autres? Ben, ils ont leur planque, ils aiment bien de rester là où ils sont. Et pourtant, ils vont devoir tous revenir sur la terre. C'est pour ça que le territoire d'Israël, dans les textes d'Ézéchiel, il est écrit qu'il est beaucoup plus grand, il va jusqu'à Bagdad. Et il va jusque sur l'Euphrate en Turquie. Et il y a énormément de monde dans ce royaume d'Israël où sera Christ. Alors, je serai jaloux de mon saint nom. Ils oublieront leur opprobre, donc toutes les souffrances, les hontes qu'ils ont eues, toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, qu'il n'y avait personne pour les troubler. Ben oui, hein, ils en profitaient bien et puis ils se sont moqués de Dieu. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ça, vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 7. Et dans Ésaïe chapitre 12. Si vous réécoutez mon enseignement d'aujourd'hui, même s'il a l'air un peu désordonné, je vous donne des références, je vous en prie, lisez-les. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Donc, clairement, à un moment donné, après deux batailles durant les tribulations, une première et une deuxième, je vais essayer d'expliquer la différence. Je ne laisserai aucun juif autre part que sur la terre d'Israël. Je ne leur cacherai plus ma face et je répandrai mon Esprit Saint sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. L'Esprit Saint répandu sur Israël, c'est ce que Jésus a voulu. Il a dit, Jean-Baptiste l'a dit, il vous baptisera de l'Esprit et du feu. Le feu étant la parole de Dieu, Jérémie chapitre 24, verset 23 ou l'inverse. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Lisez Ésaïe chapitre 2, lisez Ésaïe chapitre 65, verset 17 et verset 1. Il est clair que Dieu prendra autorité sur Israël et ils seront convertis. Jésus l'a dit, je reviendrai quand ils me diront, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ça se retrouve dans Marc, dans Luc, dans Matthieu, quatre fois. Au total, quatre fois. Et ça se retrouve dans le psaume 118. Allez lire. Donc, tout ce qui est mis là correspond à d'autres prophéties. Il y a tout un tissu de prophéties par des prophètes différents, conduits par le même Saint-Esprit, qui annoncent la même chose. D'où, comprenez bien que je défends l'autorité de la Bible. Alors, je la défends parce que c'est le trésor de Dieu qui nous a confié. Ce n'est pas la peine de l'affaiblir, de le diminuer et d'offenser Dieu et de nous déforcer nous-mêmes, de ruiner notre vie spirituelle. Alors, vous avez vu que le but de Dieu, c'est la sanctification des nations. Verset 27, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. C'est Apocalypse, n'est-ce pas? Chapitre 7. Les 144 000, et puis derrière, tous les élus du monde, tous les sauvés. Et je répandrai mon esprit sur mes gens d'Israël. Ésaïe 2, Ésaïe 65, verset 17. C'est formidable, le plan de Dieu. C'est un plan positif. Donc quand vous lisez les textes de Ézéchiel 38-39, vous pensez que c'est très négatif. C'est une horreur, ces guerres-là, j'en ai marre, je ne veux plus lire ces textes-là, je n'y comprends rien, de toute façon, Dieu, il est pour le carnage. Ta-ra-ta-ta. Dieu n'a jamais été pour le péché, la mort et le carnage. Dieu laisse la liberté aux hommes de libre cours, de donner libre cours, soit à son cœur, dans le bien ou le mal. Et nous voyons que le monde saisit toutes les occasions de faire plus de mal que de bien. Mais ce n'est pas Dieu. Jacques le dit dans son épître, au chapitre 1, ne pensez pas que Dieu est tenté par le mal. Il n'y a point de mal en Dieu. Et chers amis, n'ayez jamais cette idée subversive, sournoise ou mesquine ou soupçonneuse à l'égard de Dieu qu'il est l'auteur du mal. Jamais. Le mal vient du péché d'Adam et Ève, vient de Satan. Et vient de notre péché à nous. Alors, je vais continuer mes réflexions. Vous avez vu donc dans Ézéchiel 39, versets 9 à 20, que toutes les armes sont brûlées et il ne reste rien. Et vous avez vu dans Michée que clairement, il y aura des pioches, des houes et tout ça. Il semble donc que les hommes vont retourner à la culture du jardin, comme dans le paradis terrestre. Et qu'ils vont être appelés à vivre humblement et simplement, dans la joie, la simplicité, la force, l'amour du Saint-Esprit, avec Christ, qui pendant 30 ans fait aller ses mains. C'est bien le témoignage que Dieu trouve, que le travail noble des mains n'est pas indigne. C'est une idée du diable que de laisser croire que les manuels sont inférieurs aux intellectuels. J'espère que vous avez compris que Dieu a donné des mains, il a donné la possibilité de cultiver la terre, de la gérer, et de créer quelque chose avec nos mains. Bien sûr, nos mains fonctionnent en fonction de notre intelligence. Mais l'intellectuel, dans certains pays, l'élitisme semble être une crème au-dessus du lait, mais pas du tout pour moi, ni pour l'évangile. Qu'il y ait des intellectuels humbles et serviteurs des autres, ça va. Mais si c'est épris d'eux-mêmes et arrogant, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, prenons Apocalypse 20, versets 11 à 13. Apocalypse 20, versets 11 à 13. Apocalypse, chapitre 20. Bonjour Willy. Bonjour Rosette. Suzette. Apocalypse 20, versets 11 à 13. C'est un passage qui est très important parce que je vais vous dire pourquoi. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu, ce qu'on appelle Géhenne. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de vie. Donc il y a deux morts en fait dans la Bible. Quand nous naissons, nous sommes conçus, nous avons reçu le péché d'Adam et Ève, nous sommes séparés de Dieu, c'est la première mort. La deuxième n'arrive que si on ne s'est pas converti. Si on a accepté Christ, on a accepté l'Évangile, on a donné sa vie à Jésus, qu'on a confessé son péché, on n'est plus dans la mort, on n'est plus séparé de Dieu, on est dans la vie, pour toujours. Notre corps va peut-être périr ou tomber malade, peu importe, mais il va se relever et notre âme revient dedans. Et nous serons glorieux, comme Christ, en Christ, pour Christ, avec Christ. Et ce qu'il y a, pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils n'ont pas cherché la vérité dans leur vie, eux restent en première mort, ensuite, à la fin du règne de Christ, au bout d'un mille ans, ils vont ressusciter et juger et jeter dans le feu, les temps de feu et de soufre. C'est le jugement dernier, c'est ce qu'on appelle dans l'Église catholique le jugement dernier, le jugement final. Je voudrais vous dire que il y a une petite question quand on lit Ézéchiel 38 et 39. Pourquoi va-t-on mettre tous des gens dans les tombeaux pendant 7 mois, chapitre 39, verset 12? Pourquoi va-t-on les mettre dans un tombeau et se casser la tête à les mettre dans la vallée de Gog, c'est sans doute au sud-est ou sud-ouest de la mer morte, en bas, dans le pays des Dômes, où il y a déjà eu un carnage entre les hommes, entre les humains. Les ennemis d'Israël se sont entretués entre tribus, sans que les Juifs interviennent, avec Josaphat, le roi Josaphat. Quand il est arrivé là, avec tous les prêtres, ils avaient loué, célébré le Seigneur, ils étaient tous trucidés entre eux. Et il semble que les ennemis d'Israël vont faire ça. Ils vont ramasser des grêlons, ils vont ramasser des épreuves, et puis après ils vont continuer à se battre, mais pas contre les Juifs, entre eux. Et ils vont se trucider, et il faudra 7 mois pour les mettre dans la terre, dignement. Pourquoi est-ce que ça serait à la fin, tout à fait, à la fin des 1000 ans? Puisque Dieu va les ressusciter, Dieu les ressuscite, et Dieu leur redonne le corps, et l'âme rejoint ce corps pécheur, pour passer en jugement et être jeté dans les temps de feu et de soufre. Pourquoi passer autant de temps à les enterrer si c'est tout de suite, 5 minutes après ou 2 jours après, pour les sortir? Il est clair que c'est peu probable que cet enterrement des gens de Gog, Magog et tous les autres, depuis de Libye et tout ça, d'Iran, qui sont là, des centaines de milliers de personnes, il est peu probable que c'est à la fin du royaume de Christ. C'est certainement dans la période de tribulation, les 7 années. Donc il y a une guerre au début de tribulation où il y a un échec total, et puis il y a une autre guerre, ils rebelotent, ils remettent ça en fin de tribulation. Mais ils le remettent en plus fort. En plus fort. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce que il y a dans les armées qui font partie de cette mort horrible à la fin des tribulations, il y a les rois de l'Orient. Vous me permettez, c'est toujours la fatigue, la lumière trop forte. Voilà. Voilà. Au chapitre 16 d'Apocalypse, durant les tribulations, il y a quelque chose de très important qui est dit. Lorsque la 6e coupe est versée, c'est-à-dire la 6e colère est versée, sur le grand fleuve, sur l'Euphrate, eh bien, il est mis à sec. Son eau se tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. C'est la Chine, l'Inde, etc., le Pakistan, tous ces gens-là. Et je vis sortir de la gueule du dragon, le dragon est bien symbolisé, c'est la fête nationale de la Chine, de la gueule de la bête, c'est probablement l'ONU, la bouche du faux prophète, à mon avis, il est déjà là, regardez à Rome, et les esprits impurs, semblables à des grenouilles, ben, notre monde entier, par les masses médias, surtout nos pays occidentaux, favorise actuellement l'impureté d'une manière totale, de manière effrontée. Un désordre sexuel. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, donc qui se surveille, qui s'examine et qui reste dans la foi, dans l'attachement à Jésus, et qui garde ses vêtements, qui garde sa conduite propre, pure, en Christ, afin qu'il ne marche pas nu, donc dans le péché, et qu'on ne voit pas sa honte, la condamnation du péché. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, Ar, c'est colline, mais Mageddon, c'est Megiddo, la forteresse de Megiddo, dans la vallée d'Israël, j'ai été la voir. Ar, c'est la colline, c'est vraiment une colline, c'est un verrou stratégique, militaire, de toute époque. Et c'est là qu'il y aura les grêlons. Alors, je vais vous lire, vous continuez à lire. Le 7e ange, versa sa coupe dans l'air, sortit du temple, du trône céleste, une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint, ben oui, tremblement, comme il n'y en avait jamais eu, On monte toujours plus haut en ville. Mais le jour qu'on tombe, ça fait mal. Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées. Les îles, c'est les nations, hein. Les nations et les montagnes, c'est ça. Toutes les nations sont en débandade totale. Une grosse grêle, dont les grêlons ont pesé un talon, c'est 33 à 37 kilos, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Il y a deux choses. L'Euphrate est à sec, et les rois de l'Orient passent. Bon, actuellement, comme ça se prépare là, l'Euphrate n'est pas à sec. Il y a la sécheresse qui augmente. Et dans Jérémie 51, verset 36, il est dit qu'un jour, l'Euphrate sera sec à sa source. Donc, il n'y aura plus de neige, de glace sur la montagne, Ararat, dans toutes ces montagnes où se trouvait l'arche de Noé. Il n'y aura plus d'eau dans le lac Van, un immense lac, aussi grand que le lac Léman, en Suisse. Il n'y aura plus d'eau. Et en même temps, dans Ésaïe, il n'y aura plus d'eau dans l'Euphrate, dans le Tigre et dans le Nil. Pour avoir une telle sécheresse, il faut un véritable fléau, une hostilité à Dieu. Quand on s'oppose à Dieu de cette manière si effrontée durant les tribulations, il n'y a plus de pluie, et pensez qu'il y aura le même fléau que du temps de Achab et Jézabel. Élie a prié 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Élisée a prié 7 années, il n'y a pas eu de pluie. Ça fait 10 ans. Achab et Jézabel et toutes les puissances diaboliques de Jézabel ont été brisées. Et rappelez-vous que 7 000 hommes n'ont pas fléchi le genou, en plus d'Élie. Il y a donc des gens qui ont gardé la foi durant ces époques difficiles. C'est l'image de ce qui va arriver durant les tribulations. Il y a des gens qui vont résister, qui n'avaient pas cru, qui n'avaient pas aimé le Seigneur Jésus, qui avaient une religion, sans doute juive ou chrétienne catholique ou protestante, peu importe, mais ils avaient mis des parties de la Bible de côté, ils ne croyaient pas à l'autorité de la parole, ni au retour de Jésus-Christ, ni à la place essentielle d'Israël, et ils ont amputé, et donc ils n'ont pas eu les bénédictions pour être enlevés. Ils restent dans cette tribulation. Mais finalement, ils apprennent à remettre les choses au point grâce à l'Esprit-Saint, et ils résistent. C'est cette période où Dieu envoie, à la fin des tribulations, Élie et Moïse qui ressuscitent. Élie et Moïse ressuscitent. Et tous les fléaux de Moïse en Égypte, avec les fleuves qui deviennent du sang, etc., les grenouilles, les ulcères, tout se reproduira à la fin des tribulations. Et tous les fléaux d'Élie, d'Élisée, se reproduiront à la fin des tribulations. Pour briser totalement cette civilisation de l'Antichrist. Totalement. Le brisement, l'écrasement de Jézabel et d'Achab, à côté de ça, c'est un grain de sable à côté de la tour Eiffel. Voilà ce qui attend le brisement. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce brisement entraîne la mort des gens, des soldats, des rois de l'Orient. Or, si vous voyez bien au début du chapitre 38, il n'y a pas les rois de l'Orient. L'Euphrate n'est pas à sec. Donc il y a deux guerres. Il y en a une où il y a encore de l'eau dans l'Euphrate. Là, la Chine, les pays d'Asie n'attaquent pas. Il y a uniquement l'Iran, la Libye, etc., l'Égypte. Il y a uniquement la Turquie et les pays du Caucase et la Russie. Mais plus tard, à la Deuxième Guerre, il y a les rois de l'Orient avec. Et d'où certains chiffres dans la Bible donnent le chiffre d'une armée de 200 millions. Et le problème, c'est que ils sont enterrés dans la vallée des voyageurs. Et en étudiant les textes, je me rends compte que c'est au sud de la mer Morte. Je pensais toujours, jusque maintenant, avant d'étudier ça, cette semaine, que c'était dans la vallée d'Israël au nord. Je pense que la première bataille, la défaite est dans le nord, la vallée d'Israël. La deuxième est dans la vallée au sud de la mer Morte. Mais, il n'y a pas que les grêlons, le feu et le soufre, les tremblements de terre. C'est que tous ces gens se trucident entre eux, comme à l'époque de Josaphat. C'est invraisemblable à quel point, quand les gens sont possédés par Satan, comme ils peuvent se faire mal entre eux. Nous en avons déjà un petit apéritif, je dirais, des signes précurseurs quand nous voyons tout ce qui se passe sur la Terre. Avez-vous globalement compris, il y a deux guerres, une qui va se passer bientôt, je pense, d'ici un an ou deux, je pense, quand l'accord de paix entre les Palestiniens et les Juifs sont faits sous la pression des États-Unis, et d'autre part, il y a l'arrivée de Gog, Magog et tous ses copains sur le nord d'Israël, brisés par les crayons. Ensuite, il y a cette année enlèvement de l'Église, les tribulations, et il y a l'autre bataille où c'est fini, il y a le jugement, le jugement. Donc, il faut bien se dire que la maîtrise de toutes les choses est en Dieu. Aujourd'hui, n'ayez aucune crainte. Mettez votre confiance en le Seigneur. Lisez la parole de Dieu. Ne négligez pas. Cherchez. Recherchez. Par exemple, M. Lévy, un juif converti qui habite en Suisse, fait beaucoup de livres et beaucoup de conférences sur tout ça. C'est un homme savant. Et c'est un homme qui respecte la parole de Dieu. M. Lévy. Il y en a d'autres. Et je vais vous dire que moi, j'ai eu des amis musulmans qui ont accepté l'Évangile. Des amis musulmans qui ont accepté Jésus-Christ et son autorité. Je ne peux pas citer les noms. C'est trop dangereux pour eux. Et ce que nous voyons là-bas au Pakistan est éloquent, puisqu'on peut annoncer l'Évangile dans un pays islamiste. Qu'est-ce qu'il faut dire de la grêle? Vous allez me dire, c'est de la blague. Ben, la grêle, prenons le livre de Josué, chapitre 10, verset 11. Josué, chapitre 10, verset 11, vous allez voir. Je prends quelques exemples pour dire que ce n'est pas du tout de la blague. La grêle, d'ailleurs, maintenant, quand il y a des orages, tout le monde a peur qu'il y ait des grêlons. Ça détruit les toits, les Vélux, les voitures. Bon. Tout le monde commence à se dire, c'est quand même sérieux la grêle. Mais dans la Bible, il y a longtemps que c'est sérieux la grêle. C'est un acte révélateur de Dieu sur la désobéissance des hommes. Chapitre 10, verset 11. Donc, nous sommes dans une bataille, hein, une bataille où il y a, c'est bizarre à dire, mais il y a déjà toutes ces puissances politiques d'un même époque, les mêmes qui vont attaquer en Ézéchiel 38. Elles sont déjà citées dans ce chapitre. C'est pas marrant, on dirait que c'est toujours les mêmes. Ils ont toujours un os à ronger sur Israël. Alors, à un moment donné, Josué, verset 7, monta de Gilgal, lui et tous ses gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Il faut savoir qu'à cette époque-là de Josué, à part quelques hommes qui avaient des épées, les autres avaient des bâtons, des frondes, des fourches en bois. Les autres en face avaient des épées et des chars en métal. N'oubliez jamais cela. C'est réellement un déséquilibre au niveau militaire. Je les livrerai entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. C'est ce qui va arriver pour Ézéchiel 38. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et Makeda. J'ai visité ces coins-là, hein. Ça existe. C'est pas de la blague, ça existe. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres de grêle jusqu'à Azeka. Ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Ben oui, ils avaient quasiment pas d'épée. C'est un exemple flagrant. Psaume 18, verset 14. Donc, rendez-vous bien compte que pour la première guerre, qui sera au nord de l'Israël, où il y aura les chars russes et, la Turquie a énormément de chars, hein, c'est la deuxième puissance militaire au niveau des chars, eh bien, tout ça s'est démoli comme des boîtes à conserve écrasées sous la patte d'un éléphant. Psaume 18, verset 14. Je vais lire un peu avant, pour que vous compreniez. Dans ma détresse, verset 7, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Dieu était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche. C'est une image de quoi? De la colère de Dieu. Mais Dieu n'a pas de narines, hein? C'est pas un dragon, c'est pas un dinosaure, hein? Comme on voit dans les bandes dessinées des enfants, hein, qui crachent du feu, c'est pas ça. C'est pire que ça quand Dieu est en colère. Il a un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, il volait, il planait sur les ailes du vent. Ça, c'est clairement la méthode dont Dieu et Jésus vont enlever ceux qui croient en lui pour leur faire épargner les tribulations. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. David a vu ça. Josué a vu ça. Il y a ça 10 ans, mon copain, un copain à moi, a vu ça sur une base de l'OTAN en Suède, détruite. Alors, continuons. Psaume 18. Psaume 11. Psaume 11, verset 6. Je commence au verset 4. L'Éternel est dans son saint temple céleste. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, du soufre. Un vent brûlant, voilà le calice qu'ils ont en partage. Le vent brûlant. L'Éternel est juste. Il aime la justice, la sainteté. Les hommes droits contemplent sa face. Donc, à nous de choisir. Juges, chapitre 5. Juges, chapitre 5, versets 4 et 5. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, donc Séir, c'est une vallée qui est engloutie maintenant dans la mer Morte, il y a eu des tremblements de terre, comme Sodome et Gomorre, il y a eu quatre villes englouties là. Quand tu t'avanças dans des champs d'Édom, donc c'est le sud de la mer Morte, à gauche et à droite, au sud, c'est la région des Édomites, la terre trembla, les cieux se fondirent, les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Et plus loin, un peu plus loin, il a mis ceci. Au verset 19, les rois vinrent, donc les rois, les méchants, vinrent. Ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan, donc de la région d'Israël, de Palestine, mais ce n'est pas des Juifs. À Tanakh, aux eaux de Megiddo, Donc, il y a à Megiddo un ruisseau, je l'ai vu, une vallée, les eaux de Megiddo, Tanakh. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu sur eux, de leur sang les étoiles combattirent contre Sisera, c'était le général des armées des Philistins. Le torrent de Kizon les a entraînés, donc des pluies torrentielles qui ont empêché les chars qui étaient faits de fer, avec des chevaux puissants, de circuler. Ils se sont embourbés et ils étaient prisonniers de leur poids. Le torrent des temps anciens, le torrent de Kizon, mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Voilà un événement qui a eu lieu du temps des juges. C'est au temps de Déborah, une femme courageuse qui a tenu tête aux ennemis. Prenons Job, chapitre 38, 21 siècles avant Jésus. Job, dans l'époque d'Abraham. Job, chapitre 39, verset 6. Là, il y a une petite erreur, mes chers amis. Il y a une toute petite erreur dans mes notes. Alors, je vais regarder. C'est chapitre 38. Chapitre 38. Verset, je vais commencer au verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources du fond des mers? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme des mers? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes pour que tu saches ce qui s'y passe? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrasé du regard l'étendue de toute la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites, connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais? Qu'alors tu es né et le nombre de tes jours est grand. C'est Dieu qui pose des questions. Peux-tu les saisir? Vois-tu? Alors Job répond, tu le sais. Tu le sais, le nombre de tes jours est grand. Alors Dieu dit ceci, verset 22, « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les grands jours de guerre et de bataille? » Et donc, dans Job, 21 siècles avant Jésus, on annonce des jours de grande bataille où il y a des dépôts de grêle. Les satellites, sur Arte, nous montrent des blocs de glace qui tournent alentour de la Terre à 220-240 km alentour, à des vitesses folles, des blocs de 2-3 tonnes, 10 tonnes, 200 tonnes de glace. Ils sont réservés pour les jours de bataille, sans doute de Ézéchiel 39 à la fin des tribulations. Chers amis, la grêle est une chose. Maintenant, y a-t-il quelque chose en rapport avec la pluie? Parce que nous voyons que, je vous ai dit, Jérémie 51, verset 36, « Pluie d'eau à la source de l'Euphrate, du Tigre, de l'Égypte. » Jérémie 51, verset 36. Le prophète Jérémie l'annonce. L'étiage, c'est-à-dire la hauteur d'eau dans l'Euphrate, diminue. M. Saddam Hussein dénonçait déjà cela. Et lui, il pensait que c'était dû au barrage fait par les Turcs dans la Cappadoce, 22 barrages. Peut-être vrai, mais l'échauffement, le réchauffement climatique, qui n'est pas seulement dû à l'industrie, mais qui est dans la volonté de Dieu, le réchauffement climatique est annoncé pour assécher tous les barrages et jusqu'à la source. Peut-on faire tourner une centrale nucléaire sans eau? Peut-on faire tourner un bassin de décantation, d'épuration d'eau des villes sans eau? Non. Donc, l'absence d'eau est un échec total à la civilisation, et c'est ce qui se prépare. Alors, la pluie, à qui appartient la pluie? Job 38. Job 38, verset 28. À qui appartient la pluie, les amis? Aux météorologistes? Aux satellites? À ceux qui lisent les lignes des mains, qui regardent les boules de cristal? Non. Job 38, verset 28. Je vais commencer au verset 26. Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de rosée? Du sein de qui sort la glace qui enfante le frima du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre, que la surface de l'abîme soit enchaînée. De qui la pluie a-t-elle un père? Oui, la pluie a un père, les amis. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait la météo. Alors, si nous allons dans Zacharie, un prophète, qui est cité dans le Coran aussi, dans les sept ciels de l'islam, Zacharie, qu'est-ce qu'il dit à propos de la pluie? Au chapitre 14, il dit ceci. Au verset 3, l'Éternel paraîtra, il combattra toutes les nations, comme il combat au jour de la bataille. Nous y voilà encore avec la fin de d'Ézéchiel 39. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Donc c'est à l'Orient, à l'est de Jérusalem. J'ai visité cette colline, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers, où Jésus est monté au ciel, s'en est allé, et les anges ont dit, il reviendra à cet endroit-là. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 1 et 2. Alors, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident, et se formera une très grande vallée. Verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Elles couleront pour la moitié vers la mer orientale, donc la mer morte, qui est salée maintenant, qui n'a pas de vie dedans. Et l'autre moitié vers la mer occidentale, la mer Méditerranée. Il en sera ainsi été et hiver. Donc, des eaux vives vont revenir, à un moment donné, après un échec total de toutes les nations, et Ézéchiel 39, où toutes les nations sont brisées, magistralement. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Je continue un peu plus loin, pour vous dire, pour que vous essayiez de comprendre pourquoi, de moins en moins, on a de pluie. On s'oppose toujours plus à la parole de Dieu, on s'oppose toujours plus à la prophétie biblique, on s'oppose toujours plus à Jésus-Christ. Mais regardons les résultats. Verset 12. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples, qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » Donc c'est la famine, clairement. Et c'est Ézéchiel 39, l'échec. « En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, ils lèveront la main les uns sur les autres. Ils vont se battre entre eux. » C'est Ézéchiel 39. Toutes ces troupes-là vont s'entretuer, comme au temps de Josaphat. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera des richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent, les vêtements, etc. Ben oui, parce que quand on a peur, on accumule toujours plus d'or et d'argent. C'est une réaction, si on ne va pas vers Dieu. Mais c'est pas ça. Verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une fête où Moïse et les Hébreux ont fêté tous les ans dans le désert et quand les Juifs continuent à fêter au mois d'octobre pour se rappeler la libération de l'esclavage d'Égypte. Pour célébrer la fête des tabernacles. Mais cette fois-ci, c'est plus la libération de l'Égypte. C'est la libération d'un monde plein de péchés et d'horreurs. Et d'injustice. Ça, la vraie fête des tabernacles de fin des temps, c'est ça. On sera heureux de fêter notre sortie de ce monde qui va mal. De plus en plus mal, qui fait de plus en plus de malheureux. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Comprenez-vous pourquoi, quand Jésus paraît, Matthieu 17, en gloire dans la montagne, en présence de Moïse et d'Élie, tout d'un coup l'apôtre Pierre dit « Permets-nous de monter des tentes ». Pourquoi? Parce que tout simplement, Pierre, ben, il avait envie que le royaume de Dieu arrive sur terre, que Dieu règne en sagesse, en majesté, en sainteté, et qu'on en ait fini avec le péché, avec les oppresseurs, les injustices et toutes les cruautés. Il voulait cette fête des tabernacles. Il voulait cette fête finale où on sort de ce monde complètement fou. Et vous, chers amis? Et vous, le voulez-vous? Voulez-vous faire partie de cette fête des tabernacles? Cette fête de la libération, du passage d'un monde de péché à un monde de sainteté en Jésus-Christ. Alors, je lis le dernier verset de l'Ésaïe 14, c'est quand même formidable. Toute maison et toute chaudière à Jérusalem, dans Juda, sera consacrée à l'Éternel des armées, donc des anges. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront, s'en serviront pour cuire des viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands. Et si nous prenons Apocalypse 18, verset 23, et j'en termine avec ça, Apocalypse 18, 23, c'est quand même bizarre, plus de marchands dans le temple, plus de marchands dans la religion. Apocalypse 18, 23, eh bien, c'est mieux que ça. Plus de marchands dans le monde qui spéculent sur tout, qui dénaturent tout, qui créent l'injustice et la pauvreté. Vous lisez Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, et vous voyez, verset 23, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations étaient séduites par tes enchantements, on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Il est clair que les marchands disparaissent du monde. Et tout le monde aura, pour ceux qui restent, une houe dans les mains, une pioche. Il aura son jardin et il sera bien tranquille. Pensez-vous que vous aurez encore un smartphone? Internet? Ce ne sera pas nécessaire. Si vous êtes en présence de Dieu, vous aurez tout. Vous serez sublimement heureux en présence de Dieu. Pourquoi faudrait-il? Pourquoi faudrait-il, mes amis, encore des attrape-nigauds, des moyens artificiels pour être heureux? puisqu'en présence de Dieu, nous aurons le bonheur parfait. Alors, plus de marchands ? Oui, fini. Plus de marchands, vous lisez le chapitre 18, tous les rois de la terre qui se sont livrés avec la grande civilisation, la grande Babylone, à la débauche, donc au dérèglement, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Tout brûlé. C'est la fin de Ézéchiel 39. S'étonnant éloigné, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, notre grande Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire. » C'est notre époque moderne, bien sûr, ça. De toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, pour l'armée, de corps et d'âmes d'hommes. Nous sommes dans un commerce international de corps, par la prostitution, par X, par tout ce qui se passe, regardez Facebook, et des âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Ils s'écriaient en voyant la fumée de l'embrasement de la ville, quelle ville était semblable à cette grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ensuite, verset 20, ciel, réjouis-toi. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Chers amis, voilà l'explication d'Ézéchiel 39 de la deuxième bataille Armageddon. Vous en avez la signification là. Êtes-vous prêt à marcher avec Dieu et dans votre cœur, vous confiez totalement à Jésus-Christ et à Dieu le Père, à vous confier dans la parole des prophètes, et vous mettre en ordre dans votre vie pour un jour qui n'est pas lointain. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime.